Au-delà des apparences. Des apparences. Au-delà des apparences, une émission proposée par Sandrine Merck.
Bonjour et bienvenue dans votre toute nouvelle petite émission qui va vous faire toucher du doigt les réalités de terrain, quelles qu'elles soient. On va de révélation en révélation, de surprise en surprise et de trouvaille en trouvaille, souvent des bonnes trouvailles, sans peur ni déni, souvent dans la pauvreté, mais une pauvreté qui peut se transformer en richesse ou en tout cas dans laquelle se nichent des trésors. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Sourire pour le dernier volet de son déroulé tellement passionnant. Donc Sourire qui est actuellement sur le camp de Portet-sur-Garonne, Manouche, qui a une femme et deux enfants, un tout petit d'un an, enfin un tout petit gros d'un an, et une petite très éveillée. Et on parlait du feu parce que Sourire, de son origine, mais pas forcément, et de sa formation aujourd'hui, travaille le feu, travaille la forge et travaille la coutellerie d'art.
Ouais. Bonjour.
Et là, il y a une espèce de fascination que tu vas essayer de nous expliquer pour le feu, qui fait que...
Bah, ouais, il y a une fascination, je pense qu'elle est... Je pense qu'elle est internationale, cette fascination, tu vois, elle est pour tout le monde. Le feu, il fascine. Nous, après, on a quand même cette facilité au feu, d'avoir grandi avec le feu. Tu vois, comme on le disait, on a toujours eu le feu. Le feu était au milieu de chez nous, c'était le feu, tu vois. Il y avait un respect même pour le feu. Moi, je sais, un ancien, tu crachais dans le feu, tu prenais une claque, tu vois. Donc, de là, oui. Après, moi, j'ai...
Parce que tout petit, à l'époque, dans des vrais campements et à l'extérieur, dans la nature, ouais. Le feu, c'était la première chose qui se faisait dans le
jardin. Il y a encore du feu chez nous. Hein. Il y a encore du feu, tu as pu le voir, il y a encore du feu chez nous. Et c'est pareil, il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Donc, ouais, il y a cette fascination. Et puis, il y a aussi la fascination des éléments, tu vois. Et de comprendre, de voir un petit peu ce qui se passe quand on amène ces éléments ensemble. Comment ça réagit, qu'est-ce qu'on peut faire. Une espèce de début d'alchimie. Et donc, ça m'a intéressé. Ça m'a beaucoup touché. Et d'une certaine manière, ça... On peut dire que ça soigne un peu l'âme, tu vois. Parce que tu travailles le feu, du coup, ça te... Il y a une conduite à avoir à la forge, si tu veux faire ça sérieusement, qui fait que forcément, tu vas être entraîné par ces éléments. Parce qu'on travaille tous les éléments. On travaille le feu, je travaille le feu, je travaille la terre, parce que je fais mes enduits de forge, mes réfractaires avec des terres, donc je cherche les terres. Je dois connaître comment les terres réagissent au feu, à la chaleur. Je travaille avec l'air, parce que j'insuffle de l'air dans ma forge pour faire chauffer mon acier. Et je travaille l'eau, parce que je trempe à l'eau mes lames, où je viens enlever les calamines sur les aciers avec de l'eau. Donc ça, c'est juste vraiment pour la partie forge dure. Et ensuite, pour la partie création de l'acier, c'est pareil, c'est encore une alchimie plus forte où on a un lien encore plus fort avec les éléments.
Il y a beaucoup de choses que tu as apprises en autodidacte, en fait, ou petit à petit, à force de mettre ton nez dans, sur Internet, etc. Tu as aussi appris à lire.
Le mot autodidacte, en fait, il est compliqué parce que... Pour moi, autodidacte, c'est quand t'as jamais rien vu à côté. Ça vient tout seul. Ça vient par tes propres expériences. Autodidacte, je peux pas le dire comme ça parce que moi, comme tu dis, j'ai beaucoup fouiné à droite à gauche. Et puis j'ai fait cette école aussi qui m'a énormément apporté. Je me suis fait copain avec les formateurs qui continuent à m'amener des petits détails quand j'en ai besoin. Donc, je pense pas être autodidacte, mais débrouillard, ouais.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que en tant que quasi analphabète, alors illettré plutôt qu'analphabète, parce que tu avais quand même été à l'école, tu t'es quand même, tu as travaillé tout seul à lire, à apprendre à lire un peu en autodidacte et à écrire, puisque tu as fait un rapport de stage quand même, qui est une œuvre d'art à elle toute seule.
Ouais, c'était beau, mais c'était pas fini, c'est dommage. Donc c'est ça. J'avais la motivation.
Ouais, c'est ça. C'est ça qui est fort. Et ça veut dire aussi que dans la trajectoire de la pauvreté, entre guillemets, tu passes quand même de ferrailleur RSA à patron, peut-être un jour artisan d'art extrêmement reconnu. Et c'est de la pauvreté à la notoriété, en fait. C'est quand même... tu as des ressorts qui sont pas...
En fait, tu vois, ça, je le fais pas... je l'analyse pas trop. Je l'analyse même pas du tout. Parce qu'on a connu vraiment, nous, le rien, si tu veux. Moi, je sais qu'il y a une période où je tapais aux portes des maisons pour demander à manger. Tu vois ? Parce qu'on n'avait rien, j'étais avec mes cousins, on avait pas mal faim. Donc, on faisait porte à porte. On demandait à manger ou une pièce. Et puis, ouais, après, oui, comme tu dis, il y a eu la ferraille qui nous a aidé un petit peu. Et puis maintenant, oui, il y a les couteaux. Et puis, il commence à y avoir une réponse du public qui fait que, voilà, je vends des pièces et ça nous aide beaucoup. Mais je fais pas attention là-dessus. Parce que je pense que ça gâcherait un peu la part du travail. On se focalise sur ce qu'on fait, on se focalise sur ses mains, sur son assiet, et puis le reste, ça passe ou ça casse.
Il faut faire bouillir la marmite. Ton épouse, de temps en temps...
Mon épouse, au début, elle était super réticente.
Ah ouais.
Parce que déjà, avec la ferraille, c'était compliqué. Et puis, elle a quand même vu commencer à te faire des couteaux. Et puis, les couteaux du début, c'était horrible.
Et puis, ça rapportait rien.
C'est horrible. Ouais, c'est juste...
Dis pas que c'est horrible, je t'en ai acheté 5.
Ouais. Ouais, c'est très beau. Et...
Pour lancer l'économie.
Ouais, non, ça m'a bien aidé, bien
le
sûr.
Le tout petit coup de pouce.
C'était pour acheter les premières machines, les premiers consommables, tout ça.
Il faut toujours, hein.
C'est vrai que t'es obligé de gérer après... t'es obligé de le gérer quand même que tu veux pas. T'es obligé de gérer ce côté finance, parce que tu dois faire rentrer de la matière. Tu dois vendre aussi, il faut vendre au juste prix pour déjà être... pour pas écraser les autres et pour pas non plus se faire écraser par les autres. S'en sortir.
Un juste prix qui est très difficile à comprendre, hein, parce que toi, tu vas passer peut-être...
J'ai des couteaux d'entrée de gamme où je vais passer 5-6 heures, où je peux me payer 20 euros de l'heure à peu près, tu vois. Et après, j'ai des couteaux où je vais passer plus d'un mois dessus, ou un mois, deux mois, où je me paye à 1 euro de l'heure, tu vois. Parce que je peux pas, ça serait des prix complètement dérisoires. Et puis je peux pas... C'est parce que je suis pas non plus abouti en tant qu'artisan coutelier et je peux pas faire payer ce que je ne sais pas faire, tu vois.
Mais ta fourchette va de combien à combien, pour être très concret?
Oh, bah alors ça va de 130 euros pour l'entrée de gamme. Et après, ça peut monter pour ce qu'on appelle le tanto, donc c'est du couteau traditionnel japonais. C'est dans les 3000 euros. Mais j'en vends pas tous les jours. Hein.
C'est clair. Et quand tu dis que vous êtes sorti de la grande pauvreté, la trésorerie est quand même... globalement
elle
est stable sur zéro, quoi.
Ouais, c'est ça. Non, mais on avait rien, maintenant on a rien, mais avec des petites rentrées, du coup, ouais, ça s'en sort la tête de l'eau. On est bien, si ça fait du bien, tu vois. Nous, on est fiers, mais en fait il y a pas grand chose, tu vois. On peut toujours pas je peux pas m'acheter une bagnole d'occasion, tu vois ce que je veux dire. Je peux pas on veut s'acheter un terrain, on a trouvé des terrains on met 3000 euros dedans, tu vois, par personne. On achète à 10 parce qu'on peut pas faire autrement.
Des terrains familiaux ?
Ouais, on veut acheter un terrain familial, c'est très compliqué.
Très compliqué. On en reparle juste après la pause musicale. Cette fois-ci, tu nous fais écouter
Hans Weiss.
Comment on prononce ?
Maro Chachodrom, je crois, quelque chose comme ça.
Mare sente, kamle sente, hunen homen, pene paske he, teme jenena, jenen halauta, ha menge jais. Ano trosh lengro tziro Tega mamega Devego tziro pale Kai mare sente Van paline Pale dekas Tere kras ketne Ya keve maro chache pen mende me rotas edrom ap mareri me hatsas edrom ap mareri las maro chache pen me magato men machatka pupu drom.
On a du mal à couper, hein, quand même, hein. Elle dit quoi, cette chanson?
En gros, il raconte que on a beau vivre ensemble, on n'est pas toujours sur les mêmes vérités. Tu vois,
donc, tu parles de la famille, là,
Bien sûr. Du monde. Là, en fait, là, il parle manouche. Du coup, les chansons manouches, je parle beaucoup du manouche, tu vois. Du coup, il parle des grandes familles, du voyage ensemble, et puis que c'est pas toujours évident de toujours s'entendre et de s'accorder. Et que certains ont des vérités qui t'empêcheraient d'avancer un peu plus, tu vois.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer ou qui t'empêcherait d'avancer sur le campement? Pour l'instant, globalement, tu en fais un peu qu'à ta tête.
Ouais.
Et ça finit par prendre, je dirais. Ou alors, il n'y a pas de curiosité.
Moi, j'ai eu peur cette année, par rapport à ce que tu dis au campement. J'ai eu peur cette année parce qu'ils nous ont dit qu'il fallait quitter la place pour faire un grand nettoyage. Mais bon, comme ça fait 6 mois qu'on est à l'intérieur, elle a été fermée pendant 4 ans, cette place. Donc, ils ne vont pas nous faire de cinéma. Donc, je me suis un peu pris le chou avec les gérants parce que ils veulent un peu faire les choses à l'envers, tu vois. Bon, finalement, ils nous ont laissé là, mais je sais que l'année prochaine, il faudra sortir. Et pour sortir tout l'atelier, déjà, je sais pas où le mettre. Donc ça, faut se le garder dans le coin de la tête, tu vois. Donc, ouais, encore un petit peu de gymnastique.
Et pourtant, tu illustres parfaitement la trajectoire de partir de vraiment quand même pas grand-chose, mais avec un talent quelque part intérieur, et arriver à quelque chose d'exceptionnel. Mais il ne faut pas qu'il y ait que des embûches. Un coup de pouce, on a vu ce que ça pouvait donner.
Oui.
Mais ensuite aussi, voilà.
Je pense que des coups de pouce, il en faut tout le temps. Tu vois, il y en a tout le temps des coups de pouce. Il faut juste savoir les voir. Il faut savoir se baisser pour les ramasser. Il faut vouloir le faire aussi. Le faire bien. Mais je pense que il faut arriver à garder la tête dans le guidon sans se casser la gueule, tu vois.
Le meilleur coup de pouce qu'on peut te donner, c'est de se ruer sur tes couteaux.
De s'intéresser à la coutellerie, déjà, c'est bien.
Merci, sourire.
Merci à vous.